franceinter.fr.
Et à 8h20 sur France Inter, j'accueille Audrey Pulvar. Bonjour.
Bonjour Hélène Philippe.
Vous êtes la nouvelle présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme et vous êtes déjà dans le vif du sujet avec les états généraux de l'alimentation. Mm-hmm. Le gouvernement met les agriculteurs, les industriels, les distributeurs autour d'une même table pour enterrer la hache de guerre. L'urgence de la crise agricole, des prix, occulte-t-elle tout le reste?
Alors, heureusement, en tout cas pour le moment, il y a aussi les ONG autour de la table. En tout cas, nous étions présentes lors du lancement des états généraux, des ONG, des associations de consommateurs, des ONG qui défendent l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique. Et a priori, nous serons associés aux deux phases. Phase 1, qui sera plus consacrée effectivement à la fixation des prix, aux conditions de vie, aux revenus des agriculteurs, à l'organisation des filières. Et la phase 2, qui serait plus consacré aux questions liées aux transformations de l'alimentation, à la transition écologique, à l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Évidemment, nous serons présents, en tout cas, si nous sommes encore acceptés autour de la table, a priori, il n'y a pas de raison pour que ça ne le soit pas, nous serons présents avec des propositions, à l'écoute également, parce que je l'ai rappelé lors de l'ouverture de ces états généraux de l'alimentation, pour la FNH, comme pour la plupart des organisations non gouvernementales qui participent à ces états généraux de l'alimentation, l'agriculteur c'est pas l'ennemi, au contraire. Pour nous, l'agriculteur
réinventer
c'est le
modèle, c'est pas, ça se fait pas sans les agriculteurs.
Ça ne se fait pas sans les agriculteurs, ça ne se fait pas contre eux, au contraire, ça se fait pour eux parce qu'ils sont également dans leurs exploitations victimes des conséquences du réchauffement climatique. Ils sont également dans leurs exploitations victimes des conséquences de l'usage massif des pesticides, des dérives de l'agriculture intensive, etc.
Des agriculteurs qui n'arrivent parfois et même souvent même pas à se payer. Comment on fait pour on leur dit quoi? Faut réinventer, mais on fait comment?
Ah, d'abord il faut réinventer la structure des filières. Au-delà du fait que nous préconisons une démarche beaucoup plus respectueuse évidemment de l'environnement, mais surtout une démarche vers des exploitations plus petites avec une diversification des cultures, une production améliorée, de meilleure qualité, non seulement organoleptique, mais en plus sur le plan de la santé publique. Mais il y a évidemment une phase importante de réorganisation de la filière, du circuit de distribution, de fixation des prix. J'étais étonnée, je ne suis pas du tout agricultrice ni représentante des agriculteurs, mais j'étais étonnée d'entendre le Premier ministre dire « l'État ne peut pas et ne doit pas se substituer au marché ». Donc on fait confiance encore une fois au marché pour fixer les prix. Et on sait bien qu'en tout cas pour l'instant, il n'a pas démontré sa capacité à être équitable envers les agriculteurs.
Ouais, la priorité c'est quand même les prix, c'est quand même la guerre des prix, c'est quand même la crise agricole, la crise environnementale et climatique, elle vient après.
Non, parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. On voit bien que le système ne fonctionne pas tel quel. On voit bien qu'il a depuis longtemps atteint ses limites. Et que si on n'invente pas une façon différente, d'un rapport différent à la terre, une façon différente d'organiser les filières agricoles, à la fois pour les agriculteurs, c'est-à-dire pour ceux qui la font, cette agriculture, pour ceux qui la font, pour ceux qui essaient d'en vivre, les agriculteurs, et pour ceux qui la consomment. Si on n'invente pas un système différent, plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des êtres, plus respectueux du vivant, de notre rapport au vivant, y compris le vivant non humain, eh bien on ne s'en sort pas. Donc on ne peut pas
aller
séparer
vers le
l'un
bio
de l'autre.
Beaucoup plus.
C'est notre souhait. Il faut déjà passer par la transition agroécologique et
Vers le bio. On s'interroge pour le consommateur ensuite, parce que l'alimentation est un grand marqueur d'inégalité sociale.
Mais oui.
Tout le monde ne peut pas s'acheter du bio,
oui.
et tout le bio ne se vaut pas.
Justement, alors d'abord, bio, pour nous c'est bio et local. C'est pas bio venant du Pérou.
Répondez à la question, tout le bio ne se vaut pas parce qu'on en
envoie. Ouais. Parce qu'on envoie des produits bio venant du bout du monde. Donc d'abord, c'est bio et local. Ensuite, il faut se retirer de l'esprit l'idée que le bio serait plus cher ou tellement plus cher que le non-bio. Par exemple, pour ce qui concerne la consommation de viande qui doit diminuer, on n'a pas le choix.
On est évidemment. Faut arrêter de manger de la viande?
Je n'irai pas jusque-là. Personnellement, je n'en mange quasiment plus et c'est une démarche que j'ai engagée depuis longtemps, alors que j'étais longtemps fan de viande. Mais je n'irai pas jusqu'à dire aux gens de ne pas manger de la viande. Simplement, je leur dis qu'on peut en manger moins mais de meilleure qualité. Et ça ne revient pas plus cher finalement. Et tout le monde s'en porte mieux. L'agriculteur, l'éleveur, le consommateur, la santé publique et l'environnement.
Audrey Pulvar, êtes-vous toujours en phase avec Nicolas Hulot? Êtes-vous toujours d'accord avec lui, notamment sur les perturbateurs endocriniens? Le ministre s'est félicité de la définition qui a été trouvée au début du mois à Bruxelles. Ça n'avait pas l'air d'être le point de vue de la Fondation.
Non, la Fondation n'est pas toujours d'accord avec Nicolas Hulot. La Fondation s'appelle la Fondation pour la nature et l'homme. Il ne vous a pas échappé que Nicolas Hulot n'en fait plus partie, en tout cas il n'en est plus le président, même si il a un siège d'administrateur, mais il n'était pas présent lors du dernier conseil d'administration. La Fondation est indépendante, elle est indépendante du ministre. Maintenant, la question m'a été souvent posée de savoir si nous allions nous opposer à Nicolas Hulot. Quand on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord. L'arrêté concernant le nombre de loups qu'on pourra prélever, façon très diplomatique de dire qu'on pourra les tuer, nous ne sommes pas d'accord et nous l'avons dit.
Décret publié cette semaine avec un plafond à 40 loups abattus sur l'année qui vient.
La Fondation s'est plusieurs fois exprimée contre cette méthode en estimant qu'il y a d'autres moyens de faire face à la crise entre éleveurs et loups. Parce qu'il ne s'agit pas de nier la situation des éleveurs, mais on pense qu'il y a d'autres façons. Et elles ont été, je sais que vous avez interviewé hier une défenseur des loups, donc vous savez qu'il y a d'autres méthodes, mais à part les loups, effectivement sur les perturbateurs endocriniens, nous avons estimé que la définition qui avait été retenue n'allait pas assez loin. Maintenant, Nicolas Hulot, il a fondé la Fondation pour la nature et l'homme, il l'a créée, il l'a incarnée pendant 27 ans. Les combats qu'il a portés pendant 27 ans sont les combats de la Fondation pour la nature et l'homme. Il n'en a pas changé brutalement. Donc oui, il ne faudra pas s'étonner que nous soyons assez d'accord en général avec les orientations du ministre de la Transition écologique.
Qu'en est-il donc sur le nucléaire? Le ministère projette la fermeture de 17 réacteurs nucléaires. Le patron d'EDF doit s'étrangler. Quelle est votre position à vous?
Nous sommes sur la position qui est celle de la loi, qui est celle que prévoit la loi, le scénario que prévoit la loi, d'une diminution de 75 à 50% de la part du nucléaire dans notre électricité d'ici 2025. Pour y arriver, les estimations de la Cour des comptes, qu'on ne peut pas soupçonner d'extrémisme, sont la fermeture de 17 à 20 réacteurs. Après, la vraie question qui se pose, c'est de savoir si on peut atteindre les trois objectifs 2025, 50% et préservation de la qualité du climat et réduction des gaz à effet de serre. C'est difficile d'atteindre les trois à la fois, la Fondation en est consciente. Nous souhaitons à terme, au terme le plus court possible, une sortie du nucléaire, mais en étant réaliste.
EDF.
Est-ce que j'ai
aussi
une demi-seconde pour dire que les emplois dont on nous dit qu'ils seront détruits, nous avons beaucoup de propositions justement pour, notamment avec contrat de transition, les reconvertir et démontrer qu'il n'est pas si évident que ça, que des centaines de milliers d'emplois seraient détruits.
Une dernière question très rapide. EDF, mais aussi Vinci, Veolia, Bouygues, vous soutiennent la Fondation pour la Nature et l'Homme. Votre liberté de parole est-elle totale?
Mais la preuve. D'abord, parmi la liste que vous venez de citer, il y en a qui ne sont plus à nos côtés de façon financière en tout cas, mais ils le sont toujours. Ils nous soutiennent en tout cas amicalement. Ils soutiennent nos idées, nos combats. Nous avons des relations tout à fait transparentes avec nos donateurs, des conventions qui, noir sur blanc, rappellent notre capacité d'indépendance vis-à-vis d'eux et nous ne soumettons aucune de nos décisions à leur imprimatur.
Merci beaucoup Audrey Pulvar d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes la nouvelle présidente de la Fondation pour la Nature et pour l'Homme.